Mesdames, messieurs, bonjour. Jacques pour le magazine de CFM Radio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Avec nous aujourd'hui, Paul Sanda de la médiathèque du Pays Cordet pour une spéciale Bretagne. En musique, il nous fait écouter Gilles Serval, l'album L'Albatros Fou. Et puis en bouquin, un ouvrage dont il est le co-auteur, c'est Où est sans l'Ermitage des Grands Vents, co-écrit avec Bruno Geneste. Et puis on parlera de tatouage avec Sofsfo, le pseudonyme de Sophie Sforzini, qui vient d'ouvrir à Albi un atelier de tatouage avec une associée. Ça se trouve sur l'avenue du colonel Tessier. Et avec elle, il s'agira surtout de comprendre toute la symbolique que revêt ces tatouages qui sont façonnés comme ça sur notre peau, surtout pour la beauté cutanée pour certains. Mais on verra que ça peut aller bien au-delà uniquement de la beauté et puis du paraître, quoi. Sophie Sforzini, Sosfo, avec nous, juste après avoir écouté Randy Rain. C'est de la soul music sur CFM Radio After Louder.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Avec nous maintenant sur CFM Radio, Sophie Sforzini, qui habite sur le Camousin Ségala et qui vient d'ouvrir un salon de tatouage dans le centre-ville d'Albi. Bonjour Sophie.
Bonjour Jacques.
Alors ton nom d'artiste c'est Sofsfo.
Oui, voilà, c'est ça, Sofsfo.
Tous les tatouages ont un peu artistique comme ça là pour se démarquer ou...
Oui, c'est quelque chose qui se fait pas mal. Après, moi, c'est venu assez naturellement. C'était le nom de mon compte Instagram au départ. Du coup, j'ai gardé ce nom-là.
À trouver. Voilà. Et le nom de ton salon ?
Et alors, le nom de mon salon, c'est Una Una.
Una Una, très
voilà,
bien.
Qui et... veut dire, donc c'est un mot tahitien, hein, oui. En Reo Tahiti, qui veut dire orné, décoré.
Décoré. Voilà. Una Una, ben ça tombe très bien là pour parler de tatouage et comme nom aussi de salon. J'ai dit que ton salon se trouvait dans le centre-ville d'Albi, mais où exactement ?
Alors, il se situe au 29 avenue Colonel Tessier. Voilà, et nous sommes ouverts depuis le 6 mars, donc c'est vraiment tout récent.
Tout récent, et les débuts se passent bien ?
Oui, pour le moment, plutôt bien. Ouais. Ouais.
Bon, il faut se faire connaître, avoir une clientèle aussi. Ça, c'est un peu à ça qu'on s'attelle aussi au début, comme ça, à la nouveauté. Quand on parle de tatouage, Sophie, il y a des spécificités ou bien tu fais un large panel de choses dans ton salon?
Alors, dans mon salon, déjà, nous sommes deux. Deux tatoueuses, donc il y a moi, Sofso, et une autre tatoueuse qui s'appelle, dont le nom donc, de tatoueuse, alors elle s'appelle Émilie dans la vraie vie, mais son nom de tatoueuse, c'est Omoi no Mori. Elle a un univers... en fait, pour répondre à ta question, nous avons des univers assez spécifiques.
D'accord, voilà. Et qui peuvent se définir comment?
Alors, je vais mettre à l'honneur ma collègue en premier.
D'accord, vas-y.
C'est quelqu'un qui vient du monde de l'illustration, donc elle a un très 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 joli coup de crayon. Et travaille sur des choses assez graphiques. Donc elle fait du botanique, tout un travail de recherche autour des graminées, des choses très très fines, donc du végétal. Voilà, mais travailler vraiment avec des lignes très fines. Mm-hmm. Elle aime aussi beaucoup travailler au hand poke. Je ne sais pas si
c'est
tu sais
ça, ce que
c'est.
C'est quoi ça, le hand poke, non?
Alors, le hand poke, c'est le fait de ne pas utiliser de machine. Donc, c'est un procédé qui est un petit peu plus long, mais beaucoup moins intrusif pour la peau. C'est
pour
beaucoup
caricaturer,
plus doux.
C'est un peu comme les tatouages de prisonniers, non? Qui n'utilisent pas de machine.
Voilà,
je caricature.
Le prisonnier
je
en moins.
Je caricature, le prisonnier en moins.
Oui, mais.
D'accord.
Oui, ouais. En fait, c'est donc directement à l'aiguille, en fait. Hein. On vient piquer dans la peau directement à l'aiguille, point par point. Donc, mm-hmm. C'est. Du coup, c'est beaucoup moins violent qu'une
non
machine
violent,
qui rentre
ouais,
et qui
ouais,
sort
ouais.
À une fréquence beaucoup plus élevée.
D'accord.
Voilà. Et pour ce qui est de son univers, donc, il y a tout le côté végétal. Elle travaille aussi des choses très graphiques comme des broderies russes ou des petits motifs comme ça qui sont très géométriques, très mmh. graphiques. Et enfin, son troisième axe, donc qui vient directement de ses capacités d'illustratrice, ce sont des petits personnages qu'elle met en scène dans des environnements naturels. Donc ça peut être des branches d'arbres, des animaux, c'est très très poétique.
Et j'imagine univers. Qu'on peut faire évoluer ces personnages parce que si elle est dans l'illustration, on peut revenir tous les 3-4 ans faire évoluer les personnages que l'on s'est fait tatouer comme ça sur le corps. Et toi, ta spécificité ou tes amours dans le tatouage, ce serait quoi?
Alors moi, ma porte d'entrée dans le tatouage et mon premier amour, c'est le tatouage polynésien.
Mm-hmm.
Il se trouve que j'ai de la famille en Polynésie et du coup mon cousin est un tatoueur un très bon tatoueur polynésien.
Reconnu, oui, voilà. D'accord. Et c'est lui qui t'a formé un
et
peu.
Et c'est lui qui m'a formé.
D'accord.
Oui.
Ouais,
voilà,
ouais.
J'ai fait un apprentissage auprès de lui. Et du coup j'ai appris.
Et tu as appris comme ça,
ouais. Je suis venue
au
tatouage par là. Après je fais aussi du botanique et je fais aussi d'autres choses, de l'ornemental, voilà.
Mmh, mmh.
Ma spécificité à moi, au-delà des esthétiques dans lesquelles je me plais beaucoup, c'est que je travaille uniquement en freehand. Donc, je ne pose pas de calque.
D'accord.
Je ne passe à aucun moment par du numérique.
Donc, directement
créations.
Comme ça
Je fais, alors pour le polynésien, je fais comme ça se fait pour le tatouage polynésien. On
traditionnellement.
Dessine directement mmh. sur la peau et on tatoue ensuite. Donc, il n'y a pas de pré-projet, on va dire, et pour les autres projets, donc le botanique ou toutes les autres créations, je fais un dessin préparatoire sur papier que je modifie au gré des envies du client, et ensuite je dessine directement sur la peau et je tatoue.
Eh bien, comme pour les chirurgiens, il faut vraiment ne pas avoir la main qui tremble lorsqu'on tatoue comme ça. Et ça me fait penser à la relation que l'on doit avoir avec ses clients, ceux qui viennent avec leurs dessins, ceux qui viennent se faire conseiller. Ça, c'est une étape importante aussi de votre travail parce qu'avant de se lancer, j'imagine qu'il y a un certain nombre de rendez-vous quand même avec les gens qui viennent vous voir.
Oui, moi je ne fais pas de flash ou de tout petit tatouage, donc du coup c'est vrai que quand on vient me voir, on prend le temps de discuter avec le client, je fais une proposition. Alors si c'est pour du polynésien, j'invite à regarder mon book, hein, donc ce que je fais un petit peu, le client va m'orienter vers le style qui lui mmh. plaît, puisque il y a plusieurs styles hein, dans le tatouage polynésien, il y a plein de sous-familles, hein, le marquisien,
ouais.
mmh. le samoan, le tongien, le fidjien... C'est assez complexe. Voilà, moi, je fais principalement du marquisien, du samoan et ce qu'on appelle le polymix, donc du mix moderne, en fait, polynésien, et avec des ombrages, des choses comme ça. Et, Et voilà, ben, suivant le style qui va lui plaire, on fixe un rendez-vous s'il est convaincu par les tarifs et le, voilà, et puis le temps aussi que
ça va demander, ouais.
Que
ouais,
ça prend parce que c'est rarement du tatouage court que je fais.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des manières d'encadrer cette pratique? Je pense notamment à des mineurs qui viendraient vous voir. Là, il faut l'autorisation des parents. Même pour les adultes, il faut peut-être un temps aussi de réflexion, surtout pour ceux qui font leur tout premier tatouage. Comment est-ce que vous abordez cette notion-là avec les personnes qui viennent vous voir?
Alors, déjà, ça commence par une discussion avec la personne. Bon, moi, personnellement, a priori, je ne tatoue pas de mineurs. Voilà, ma collègue non plus. Il faudrait vraiment que j'ai l'autorisation des deux parents, les parents accompagnent l'enfant et que je sache vraiment que c'est un projet qui est mûri depuis longtemps. C'est quand même quelque chose qu'on va garder sur la peau à vie. Et c'est un petit peu, enfin, on sait qu'on a été jeunes, hein. On sait qu'on a des envies.
Ah, des fois comme ça, fugaces.
Voilà, fugaces, qui vont pas forcément durer. Donc voilà, c'est quelque chose à vraiment apprendre avec des pincettes. Et ensuite, bah, pour les adultes qui viennent nous voir, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui sont déjà tatoués, qui ont déjà réfléchi le prochain tatouage qu'ils veulent avoir. Et puis, il y a la personne dont c'est le premier tatouage. Et de toute façon, entre la première rencontre, le premier contact, alors qu'il soit par écrit ou en personne, hein, si les personnes viennent à l'atelier, et le moment où on prend rendez-vous, bah, il y a toujours un laps de temps quand même assez conséquent qui fait que la personne a le temps aussi de réfléchir. Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow.
Avec nous sur CFM Radio aujourd'hui pour parler de tatouage. Hein. Son salon se trouve avenue Colonel Tessier à Albi et c'est le salon Una. Una, un mot tahitien hein, pour parler de tatouage qui est bien à propos. Son nom d'artiste, c'est Sofso. Et Sophie, tu nous as parlé beaucoup de tatouage polynésien. C'est vrai que si on s'intéresse un peu à la mode du tatouage, ben, on va dire que ben, c'était vraiment à la mode là ces derniers temps. Partout sur les plages, on en a vu des tatouages polynésiens. Est-ce que c'est toujours à la mode ça? Est-ce qu'il y a toujours une forte demande pour ça ou bien il y a autre chose qui supplante un peu?
Alors, il y a... Aujourd'hui, le tatouage s'est tellement démocratisé qu'il y a une variété infinie de styles de tatouage. Moi, je reste quand même convaincue que les tatouages qui ont une forte portée symbolique, comme le tatouage marquisien, par exemple, qui est plein de symboles et de significations, le tatouage traditionnel, avec sa dimension sacrée, ne mourra jamais.
Ouais, ouais.
Je pense qu'on se lassera peut-être d'Homer Simpson, mais...
Mais pas de ça.
Mais une tradition qui a des millénaires s'efface pas comme ça.
Bon, on ne connaît pas très bien, finalement. Hein. Je pense que le grand public ne connaît pas très bien tout ce qu'il y a autour du tatouage. Là, je parle de manière vraiment traditionnelle, symbolique, même spirituelle, ce que ça représente. Est-ce que toi, lors de tes voyages, par exemple, en Polynésie, tu t'es intéressé à cela? Est-ce que tu peux nous le résumer un peu?
Alors, quand je suis allée en Polynésie, moi, voir ma famille, j'ai vu évidemment du tatouage parce que le tatouage est au sein, au cœur de la culture polynésienne. Donc, on croise dans la rue des gens qui ont des tatouages faciaux. Pour moi, c'était un choc de croiser dans la rue voilà, des gens qui ont le visage noirci. On n'est pas du tout habitué à ça.
À ça
ici,
ouais,
c'est,
ouais.
C'est quelque chose de fort pour nous. Et en même temps...
Mais ça représente quoi ces tatouages faciaux ? Est-ce que c'est comme une forme de carte d'identité, une forme de présentation, une forme d'histoire qui est écrite sur leur visage qui peuvent être décryptées par les initiés ?
Ah oui, tout à fait. Mmh. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Alors là, on parle vraiment du tatouage marquisien.
D'accord, ouais, donc c'est celui-là, voilà, le marquisien, qui voilà, où il y a des informations décrypter.
Voilà, le tatouage des îles Marquises est vraiment une forme de, on va dire, de langage, en fait, de langage sur la peau. Ce sont des symboles qui correspondent à des étapes de vie, la place de la personne au sein de sa famille, au sein de sa fratrie, au sein de sa communauté, sa fonction au sein de la communauté, le nombre d'enfants qu'il a eu, les deuils qui ont traversé sa vie, ses qualités, ses aptitudes. Donc c'est une vraie carte d'identité.
Ouais, ouais,
le tatouage marquisien, c'est vraiment
carte d'identité à la fois. Ouais.
C'est
ouais,
une
ouais.
forme de c'est comment dire, c'est la forme d'écriture en fait qu'ils avaient et qui passait comme support, qui avait comme support à la fois la peau, donc des personnes qui étaient tatouées, mais aussi à travers la sculpture, à travers, ce sont des symboles qu'on retrouve à travers la sculpture. Et d'ailleurs c'est la façon qu'ils ont eu de sauvegarder leur culture quand nous sommes passés notre culture chrétienne et du coup aussi très limitante, hein, puisqu'on, le tatouage a été interdit, hein, dans les îles Marquises.
D'accord.
Voilà. Et heureusement, il a été, les symboles ont été sauvegardés à travers la sculpture.
Mais ça permet de voir qu'au-delà, hein, du caractère purement esthétique, il y a toute une histoire autour du tatouage aussi. J'aimerais que l'on parle un peu du coup. Alors, c'est difficile de l'évaluer comme ça en théorie, à la radio, mais tout de même, pour ne serait-ce que se faire une idée de combien ça coûte un tatouage. Si je veux le classique, le grand classique, le cœur avec la flèche qui traverse, écrit « Je t'aime maman », 6 cm de long, ça peut coûter combien ça?
Ben là, tu t'es en train de parler plus ou moins d'un flash, donc quelque chose que moi, je ne fais pas.
D'accord, ok. Dans ce que tu fais, 6 cm de long, un beau tatouage polynésien.
Je ne sais pas, je dirais que ça va coûter 6 cm de long. Alors, c'est vraiment tout petit.
Oui,
hein,
petit.
Pour un tatouage polynésien, ouais. c'est vraiment tout petit. Alors, je ne sais pas, ça va être 100 €, quoi.
D'accord,
enfin,
ouais.
Ouais, peut-être. On va dire que le minimum, la sortie d'aiguille, comme on dit, c'est-à-dire le minimum d'un tatouage, ça va être dans les 80 €.
80 €, ouais. Ouais,
ouais, ouais.
Non, non, c'est juste pour qu'on se fasse une idée, parce que ceux qui ne sont pas au fait de la chose, ils envoient les personnes tatouées,
tout à fait,
mais
tout à
on
ne
sait pas combien ça peut représenter. Donc faire tout un dos, par exemple, c'est
alors
des centaines d'euros, peut-être un millier d'euros, peut-être.
Oui, peut-être même plus.
Ouais.
En fait,
tout dépend
du style, c'est toujours pareil,
des
tout dépend
détails,
du style dans lequel voilà, tu le fais. Là, je viens par exemple de terminer un avant-bras en style samoan, enfin en samoan moderne, hein, parce que c'est pas du samoan purement traditionnel, mais en samoan moderne, c'est un style qui est très très long. J'ai passé plus de 25 heures dessus.
Ah ouais.
Voilà.
Donc autant pour toi que pour la personne qui est allongée ou assise, vous discutez pas trop en plus parce que toi tu as besoin d'être concentré.
Non, je discute. Non,
ah
non,
oui,
moi je discute.
Ouais.
Oui, oui,
ouais.
Je discute. J'aime bien écouter de la musique, discuter. non. Non, non, je suis pas. Justement, je pense que mon rapport au tatouage, du fait d'avoir été formée dans un salon de tatouage polynésien et voilà, avec des Polynésiens, le tatouage fait partie de la vie. C'est quelque chose de vivant. En fait.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vivant. C'est au sein de la vie.
C'est comme aller chez le coiffeur finalement où on rencontre aussi un lieu de rencontre.
C'est un peu plus important quand même.
Mais caricature encore une fois de plus, mais là,
les cheveux, ça repousse, quoi.
Plus du côté convivialité, parce qu'on peut aller s'installer comme ça. C'est aussi un endroit où on vient discuter avec des personnes. Et dans votre salon, là, avenue Colonel Tessier, vous ne faites que des tatouages. Il n'y a pas de piercing,
non,
pas d'autre chose. Voilà,
ouais,
c'est
non.
spécialisé sur le tatouage émilien, toi.
Tout à fait. Ouais.
Parfait.
Ouais.
Mais écoute, le salon s'appelle Una. Una, il est avenue Colonel Tessier. Le numéro, c'est quoi déjà ?
Au 29.
29 avenue Colonel Tessier. Et j'imagine bien que si on se rend sur ta page Instagram, sauf Sfo,
oui,
on pourra voir quelques modèles de ce que tu fais.
Tout à fait, absolument.
Donc S-O-F-S-F-O sur Instagram.
Ouais.
Une page Facebook peut-être ?
Pareil, Softspo sur Facebook.
Voilà. Merci beaucoup Sophie d'être avec venue nous plaisir. Parler, de nous avoir glissé comme ça quelques notions sur le tatouage. Eh bien, on va se coucher un peu moins bête ce soir. Merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir invité. Au revoir Jacques.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
À lire, à voir, à entendre.
À lire, à voir et à entendre. En partenariat avec le réseau médiathèque Corps de Vahour.
À lire, à voir et à entendre.
À lire, à voir, à entendre.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Paul Sanda, de la médiathèque du Pays Cordais.
C'est une spéciale Bretagne qu'il nous propose aujourd'hui. Paul Sanda, vous l'ignorez peut-être, mais il vit à Cordes-sur-Ciel. Il est co-responsable de la médiathèque du Pays Cordais, mais son cœur et ses oreilles sont bien bretonnes, hein, où il va régulièrement pour écrire, s'échapper de Cordes-sur-Ciel, fuir les touristes aussi parfois. Oui, il le fait, Paul, il ne va pas l'avouer là au micro de CFM. Il est avec nous. Salut Paul.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien.
Ça apaise, hein, cette
musique. Tu
m'as fait
rêver. Ouais.
Aujourd'hui, on va parler de la Bretagne à la faveur du CD que l'on entend déjà là en fond. C'est Gilles Servin que tu nous fais découvrir aujourd'hui. L'album, c'est L'Albatros Fou. Et puis, on va parler aussi d'un ouvrage que tu as présenté il y a pas si longtemps à Cordes-sur-Ciel. C'est Ouessant, l'ermitage des grands vents, que tu as coécrit avec Bruno Geneste. Et c'est en Bretagne aussi qu'il a été écrit, ce bouquin.
Oui, bon, je ne vais pas reparler de ce livre, parce que j'en ai déjà parlé ici, mais dire quand même qu'il a été écrit sur 6 années et de longs séjours que j'ai passé dans des phares. Et en particulier dans un sémaphore dans l'île d'Ouessant, qui est une île au large. Et voilà. Et c'est un livre qui est peut-être aussi profond qui essaye d'être aussi profond que la musique qu'on entend. Donc j'ai écrit ce livre, j'ai fait une conférence donc il y a pas très longtemps à Cordes, et il y avait quand même plus de 70 personnes, et il y avait au moins une trentaine de cordais. Je pense qu'ils ont été très très contents de découvrir l'ailleurs, parce qu'en fait c'est ça, il y a une profondeur à vivre à Cordes, et il y a une profondeur à vivre sur un phare. En fait, il y a des points communs. En fait, Bruno Geneste, qui est venu ici au mois de mai l'année dernière, qui nous a expliqué que c'était, que lui, c'était un Breton qui se sentait à Cordes comme sur une île. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans.
Oui, sans l'ermitage des grands vents, disponible donc à l'emprunt, voilà, à la médiathèque du Pays Cordais. Et là, enfin, Paul, on écoute, je ne vais pas dire un chanteur, mais presque un poète, de ce que
oui,
j'entends.
Oui,
là, c'est
Gilles Servin, c'est un poète. J'ai eu la chance de faire sa première partie dans un festival, puis j'avais fait le festival interceltique. Et Gilles Servin, c'est un chanteur, quelqu'un de très profond, mais qui est surtout connu en Bretagne, c'est vrai, parce qu'il a fait vraiment le choix de la Bretagne. En fait, il y a beaucoup de Bretons, de chanteurs, de gens qui chantent en Bretagne, qui chantent en breton et qui font le choix de rester dans un univers celtique, y compris de l'autre côté de la Manche.
Gilles Servin, l'album que tu nous apportes.
Oui, mais parce qu'il a fait, une préface d'une partie de cet ouvrage. Ouais,
d'accord,
voilà.
Donc tout est en lien. Donc on est purement en Bretagne aujourd'hui, amis auditeurs. On va écouter un titre de cet ami Gilles Servin. Ben là, le titre que je vais choisir, c'est Le Moulin de Guérande, pour être vraiment raccord avec cette thématique bretonne que tu nous proposes aujourd'hui dans À lire, à voir et entendre. Voici Gilles Servin, mesdames et messieurs.
Le bourg de bas, debout sur les marais, le croisic tout au bout du grand trait. Sous ses veilleurs, les souvenirs m'attendent, et l'enfance en moi comme un matin. Par-dessus le menton d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournaient, tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Sur le grain de mes jours envolés. Chemin de mer au talus de rochers, entonnoir de granit écorché, passaient nos jeux, passaient nos vies gourmandes. Sur le clair sablier de Port-Lin, par-dessus le manteau d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournaient, tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Sur le grain de mes jours envolés. La mer a fui l'auge de Saint-Goustan, à l'orée des lents oiseaux distants, mon père penché ramassait des amandes, des fruits de nacre et des couteaux marins. Par-dessus le manteau d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé, tournaient, tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Sur le grain de mes jours envolés.
Et bien encore une fois, tu réussis à me faire découvrir quelque chose, Paul Sanda. Le Servage, je ne connaissais pas. Je découvre, j'aime bien. Le titre, c'est Le Moulin de Guérande et l'album, c'est L'Albatros Fou.
Ouais, c'est une voix profonde. C'est quelqu'un qui vit la Bretagne vraiment en profondeur. Hein.
Ouais.
Ça, c'est... Et je suis très heureux d'avoir été accompagné dans mon livre par ce genre de voix et très fier d'avoir pu chanter en avant-première de son travail. Voilà, c'est Ouessant, l'hermistage des grands vents.
Disponible à la médiathèque du Pays Cordais. On va se quitter, Paul Sanda, avec quelques mesures encore de Gilles Servat, qu'on a plaisir, en tout cas pour ma part, de découvrir aujourd'hui sur CFM Radio. C'était à lire, voir et entendre en partenariat avec la médiathèque du Pays Cordais. À bientôt, Paul.
À bientôt.
Sur le grain de mes jours envolés. Des soirs dorés, des vieux cars fabuleux, le soleil dans le pare-brise bleu, citron brûlant, éblouissant offrande de l'été déjà sur le déclin. Par-dessus le manteau d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé, tournaient, tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Par-dessus le manteau d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé, tournaient, tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Sur le grain de mes jours envolés.